La première, l'histoire continue.
Bertrand Haine, Hélène Maquet.
Dans le reste de l'actualité, ce qui s'apparente à une tentative de coup d'État sans doute ce soir en Turquie.
Les partisans d'Erdogan ont entendu son appel. La situation devient confuse avec des tirs nourris entre putschistes et forces loyalistes.
De la stabilité au chaos, de la loi à l'arbitraire, de la paix à la guerre, la frontière est parfois franchie en un instant.
Dans la confusion, un pays peut basculer, un régime peut tomber, l'armée peut investir les rues et prendre le pouvoir.
Sur les rives du Bosphore, en Turquie, les coups d'État de l'armée font partie de l'histoire politique. Le dernier, en 2016, fut un échec.
Un échec pour les putschistes, mais une aubaine pour le pouvoir du président Erdogan, qui s'est considérablement renforcé.
7 ans plus tard, alors que la Turquie s'apprête à voter pour ou contre Erdogan, le coup d'État raté continue à résonner dans la vie politique turque.
On vous propose une plongée dans une nuit d'été d'Istanbul qui a fait basculer la Turquie.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de l'Histoire continue que nous avons donc décidé de produire pour éclairer l'actualité, celle des élections présidentielles qui doivent décider de la poursuite ou non du règne de Recep Tayyip Erdogan à la tête de la Turquie.
Oui, et comme angle pour aborder cette élection, nous avons choisi de revenir sur la nuit du 15 au 16 juillet 2016 à Istanbul et Ankara. Une nuit où la Turquie a vécu une nouvelle fois un coup d'État, la 5e fois depuis la Deuxième Guerre mondiale. L'armée a en effet pour habitude de s'immiscer dans la vie politique turque. Elle se considère comme la garante de l'héritage du fondateur de la République, Atatürk, et en particulier de la laïcité face à l'islam politique. L'histoire s'est donc une nouvelle fois répétée en 2016, mais cette fois le coup d'État a échoué. Les mutins n'étaient pas assez nombreux, pas assez préparés. Il reste encore aujourd'hui une part de mystère. On va l'entendre autour du qui et du pourquoi de cette tentative. Mais ce qui est certain, c'est que le pouvoir du président Erdogan s'est renforcé, car la répression du régime turc a été impitoyable.
Alors on s'est dit qu'il était important de revenir sur cet événement pour mieux comprendre les enjeux actuels de l'élection en Turquie, alors que le président Erdogan remet en jeu un nouveau mandat après 20 ans à la tête de la Turquie comme Premier ministre puis comme président. Pour en parler avec nous, nous aurons par téléphone le journaliste et politologue turc Ahmet İnsel. Et puis Benoît Feit est avec nous. Bonjour Benoît.
Bonjour Hélène.
Vous êtes
bonjour Bertrand.
Journaliste ici à la rédaction de la RTB. Vous avez couvert ces élections. Est-ce que on vous a reparlé de ce coup d'État dans les reportages, dans les rencontres que vous avez pu aller faire sur place dans le cadre de ces élections?
Alors pas directement. L'ambiance qui régnait à Istanbul, Ankara et dans les petites villes et villages d'Anatolie que j'ai pu parcourir durant le premier tour, à l'occasion du premier tour des élections, on a plutôt rencontré des gens qui nous parlaient du gros enjeu de ces élections. Et c'est marrant parce qu'ils l'exprimaient à demi-mot. Les gens disaient aujourd'hui l'enjeu c'est de voter pour la démocratie. Et donc ils ne répondaient pas à la question de savoir pour qui allez-vous voter, mais la formule utilisée était systématiquement l'enjeu est trop important, il faut voter pour la démocratie, ce qu'on a évidemment traduit par voter contre Erdogan. On aura peut-être l'occasion de revenir justement sur les explications de cette formule durant l'émission.
Et on va essayer de comprendre pourquoi justement reparler de ce coup d'État, c'est reparler de la question de la démocratie en Turquie. On se plonge tout de suite dans nos archives, nous sommes en 2016 et c'est le cœur de l'été.
L'après-midi du 15 juillet 2016 se meurt doucement sur les rives du Bosphore. Les Stambouliotes laissent derrière eux la torpeur de l'après-midi. Ils sortent et profitent de la relative fraîcheur de la soirée estivale. Les terrasses des cafés se remplissent de monde. Les commerces déploient leurs étals d'étoffes et d'épices. Les rues d'Istanbul bruissent à nouveau d'une activité soutenue. Le pays est en vacances. Loin du tumulte de la ville, le président Erdogan, qui dirige le pays d'une main de plus en plus ferme depuis 13 ans, profite d'un moment de répit dans une villa de la côte méditerranéenne à Marmaris. Sur la rive asiatique d'Istanbul,
le club maritime de la Moda est posé à l'endroit où la mer de Marmara devient le Bosphore. C'est là que le général d'aviation Mehmet Sanver célèbre le mariage de sa fille. Plus de 400 convives sont réunis pour la noce, dont le gratin de la force aérienne turque. Soudain, les téléphones des hauts gradés se mettent à sonner. Des regards inquiets s'échangent, des conciliabules entre uniformes, des petites réunions secrètes entre militaires. Et puis, une vibration, de plus en plus forte. Deux hélicoptères de l'armée arrivent et se posent. Des militaires en armes en sortent. Ils font prisonnier Mehmet Sanver et d'autres généraux. Mehmet Sanver dit à sa fille de ne pas s'inquiéter. Et la noce continue, donc, dans la confusion la plus totale. Un coup d'État vient pourtant de commencer. Il est 22h.
Il est 22h. David Rifon, bonsoir. L'homme qui a foncé hier soir sur la foule à Nice à l'issue du feu d'artifice du 14 juillet, faisant au moins 84 morts. Cet homme est un terroriste sans doute lié à l'islamisme radical d'une manière ou d'une autre.
À Bruxelles, le journal de la Première évoque l'attentat de Nice et ses 84 morts perpétrés la veille. En fin de journal, une dépêche, encore très confuse, sur la Turquie.
Dans le reste de l'actualité ce soir, des hélicoptères et des avions militaires sont signalés au-dessus de la capitale turque Ankara. Des coups de feu auraient également été entendus. Les ponts sur le Bosphore à Istanbul sont coupés, semble-t-il, par les forces de sécurité. Difficile pour l'instant d'en savoir plus, ni même si ces deux phénomènes sont liés.
À Istanbul, comme à Ankara, la capitale, on signale des mouvements de troupes. Des chars sortent des dépôts. Des camions de transport de troupes roulent à côté des voitures sur les autoroutes. Plusieurs hélicoptères et plusieurs F-16 décollent de la base militaire d'Ankisilar. Les avions volent à basse altitude au-dessus d'Istanbul. D'habitude, les avions ne volent pas si bas. Les Stambouliotes se demandent ce qui se passe, mais ils n'ont pas encore de réponse. Soudain, deux ponts sur le Bosphore sont coupés par des chars de l'armée. Des dizaines de soldats s'alignent, fusils en bandoulière. La place Taksim, épicentre de récentes manifestations de contestation du pouvoir, est fermée par l'armée. Les policiers hébétés laissent faire sans savoir comment réagir. La confusion, aucune communication officielle, mais sur les réseaux sociaux, certains commencent à parler de coup d'État. Autour de 23h, un assaut est signalé dans le bâtiment de la chaîne publique, la TRT. La rédaction est prise en otage et la présentatrice est forcée de lire un message en direct.
Sevgili seyirciler, bu metnin tüm Türkiye Cumhuriyeti kanallarında yayınlanması Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir isteğidir ve emridir.
Le maquillage de la jeune présentatrice laisse deviner des gouttes de sueur. Le communiqué qu'elle découvre annonce que l'armée a pris le pouvoir et a installé la loi martiale. Le communiqué explique qu'il s'agit de restaurer l'ordre constitutionnel, la démocratie, les droits humains, les libertés et l'état de droit pour faire régner l'ordre. Il est signé par un nébuleux groupe, le Conseil de la paix pour la patrie, inconnu jusqu'alors. Désormais, les choses sont claires. Il s'agit donc bien d'un coup d'État, même si on ne comprend pas encore qui est derrière et pourquoi. Et puis surtout, on se demande bien qui dirige le pays. Erdogan est en vacances, loin d'Istanbul, loin d'Ankara, et il est aux abonnés absents. Les rumeurs courent, il aurait demandé l'asile en Allemagne. D'autres disent qu'il s'est enfoui sur l'île de Rhodes. L'état-major des armées est lui aussi absent, pris en otage par les putschistes. La soirée continue. çà et là, dans Istanbul et Ankara, des explosions, des échanges de tirs sporadiques. Et au sol, les premiers morts. Puis, enfin, vers 00h30, le président Erdogan apparaît enfin à la télévision sur CNN Turc. La présentatrice tient dans sa main un iPhone blanc. Y apparaît via l'application FaceTime le visage du président Erdogan. Lui, qui a habitué le pays à des prises de parole fastueuses, millimétrées, se retrouve à devoir appeler une présentatrice pour s'exprimer. Il apparaît seul, en difficulté, sans aucun faste. Il dénonce une minorité de militaires qui tentent de prendre le pouvoir et appelle la population à descendre dans la rue pour résister. Il annonce aussi la vengeance. Le prix à payer pour les putschistes sera lourd. Les putschistes comprennent l'importance de l'appel du président, mais il est déjà trop tard quand il déboule dans les locaux de CNN Turc pour tenter d'en prendre le contrôle. Les caméras filment les journalistes paniqués qui demandent de couper le signal. Dans la rédaction, une foule en vient aux mains avec les militaires et les policiers tentent d'éviter que la situation s'envenime, toujours dans une confusion totale. Au cours de la nuit, les mutins ont accumulé les erreurs. Ils n'ont pas réussi d'abord à convaincre assez de généraux de les suivre dans leur aventure. Et ils n'ont pas ensuite réussi à arrêter le président Erdogan à temps dans sa résidence. Il s'est envolé pour Istanbul, où une partie de l'armée de terre lui est fidèle. Et puis, les mutins occupent la chaîne publique, mais ne se préoccupent pas des chaînes satellites, ni des réseaux sociaux. L'appel d'Erdogan tourne désormais en boucle auprès de ses nombreux partisans. Partisans qui descendent en masse dans la rue. La nuit se pare alors des allures de la guerre civile.
Les partisans d'Erdogan ont entendu son appel. Des milliers de personnes investissent les rues, brandissent des drapeaux et montent sur les chars. La situation devient confuse avec des tirs nourris entre putschistes et forces loyalistes. Dans le ciel, des hélicoptères et avions de chasse ouvrent le feu. Il y a déjà des morts et les hôpitaux accueillent les blessés. Peu avant l'aube, le président rejoint Istanbul. Acclamé par ses sympathisants, une conférence de presse est improvisée.
Avec l'aide de Dieu, nous continuerons à remplir notre tâche jusqu'à la fin. Et nous ne laisserons jamais le pays à ces intrus.
Le petit matin se lève sur Istanbul et sur Ankara. Et le coup d'État a échoué. Il reste encore ça et là des chars, mais ils sont devenus des tribunes que se disputent les partisans du président, drapeau turc à la main. Sur un des ponts, enjambant le Bosphore, la colonne de soldats qui était encore présente lève maintenant les mains au ciel et se rend à la police. À l'aéroport, les militaires cèdent du terrain. Le président Erdogan atterrit à 4h30 du matin et annonce que ce soulèvement, je le cite, est un don de Dieu. Il nous aidera, dit-il, à nettoyer l'armée de ses éléments factieux. À la télévision publique, occupée, la foule des partisans du président a maintenant pénétré dans les locaux et libéré les journalistes.
Nous avons vécu des heures effrayantes ici. J'ai réalisé mon pire journal télévisé. Nous avons été retenus en otage par des forces armées pendant des heures. Nos mains étaient attachées dans notre dos.
Dans certains quartiers, des tirs sporadiques sont encore entendus et les habitants constatent les dégâts. Le Parlement à Ankara est partiellement détruit. La Turquie vient de vivre une nuit noire.
Partout, les putschistes refluent, rendent les armes. Ce coup d'État est un fiasco total. Et dans le camp du président, on pointe déjà un responsable, Fethullah Gulen, un théologien, un temps allié d'Erdogan, devenu son pire ennemi.
Alors, qui est derrière ce putsch avorté? Le président Erdogan pointe son ennemi de longue date, l'imam Fethullah Gulen, exilé aux États-Unis, mais il nie toute implication. Selon certaines sources, le cerveau pourrait être Akinos Turk, ancien chef de l'aviation. Ce soir, le bilan humain fait état de 265 morts et plus de 1000 blessés.
Ce coup d'État raté est un triomphe pour le pouvoir en place. La machine répressive va s'emballer comme jamais depuis l'arrivée au pouvoir de l'AKP, le parti islamo-conservateur du président Erdogan. L'état d'urgence est proclamé. Des purges massives sont déclenchées dans l'armée, la gendarmerie, la police, mais aussi dans la justice, l'enseignement et les médias, tous accusés d'être infiltrés par des partisans de Fethullah Gulen. 40 000 personnes sont arrêtées, 150 000 fonctionnaires sont suspendus, l'armée turque est mise au pas, 149 généraux sur les 358 que compte l'armée sont limogés. Recep Tayyip Erdogan fait aussi passer une réforme constitutionnelle qui renforce considérablement ses pouvoirs de président. Ce 15 juillet 2016 l'a donc rendu plus puissant que jamais.
La première,
l'histoire continue.
Hélène Maquet, Bertrand Haine.
Alors, il y a un mot qui revient pas mal dans ce récit sur ce coup d'État, cette tentative de coup d'État de 2016, c'est le mot confusion, hein, confusion du moment. 7 ans après, il faut bien dire qu'il reste encore un peu de confusion. C'est notamment le constat d'Ahmet İnsel, qui est un politologue, journaliste turc. Et je lui demandais si justement 7 ans après, on y voyait plus clair et on savait répondre aux questions qui et pourquoi. On écoute ses réponses.
Non, malheureusement, ce qui est très étonnant, c'est qu'il y a énormément de personnes qui sont condamnées, même à des peines très lourdes de perpétuité, des soi-disant des chefs de file, ou en tout cas accusés comme chefs de file, des généraux haut gradés. Mais nous ne savons toujours pas, nous n'avons pas de récit fiable, détaillé et convaincant sur le déroulement et les motivations et les personnalités des gens qui ont organisé cette tentative. Mmh. Ça, c'est une grande question qui, évidemment, alimente toutes les spéculations dans les deux sens.
Oui. Le président Erdogan, dès cette journée du 16 juillet, a accusé Fethullah Gulen d'être à l'origine de ce coup d'État. Est-ce que c'est une piste solide ou est-ce que c'est de la communication politique?
C'est une piste solide dans un, partiellement. Il est quasiment certain que des personnalités liées au sein de l'armée, mais aussi dans la vie civile, à la communauté Gulen, ont participé, peut-être ont été à la tête de cette tentative. Mais nous ne savons pas exactement qui était l'organisateur, au pluriel, qui étaient les organisateurs. Du côté de Gulen, de la communauté Gulen, il y a des gens qui ont pu fuir. Pas mal de cadres de la communauté Gulen avaient quitté la Turquie avant le tentative de coup d'État, parce que depuis un an, il y avait un bras de fer avec le gouvernement Erdogan. Et il y avait une très forte pression sur les organisations et les personnalités en vue de la communauté Gulen. Donc ils avaient pas mal quitté la Turquie. Mais au sein de l'armée, on a trouvé effectivement des officiers qui étaient en lien avec la communauté Gulen. Mais au-delà, nous ne savons pas encore exactement le déroulé. Et probablement, ce n'était pas simplement des sympathisants ou des activistes de la communauté Gulen qui étaient impliqués dans cette tentative de coup d'État. Il y avait aussi d'autres officiers, mais nous n'arrivons pas encore à identifier leur couleur politique, leur appartenance ou leur motivation.
Benoît Feit, vous êtes journaliste ici à la RTBF. Vous étiez encore en Turquie il y a quelques jours pour couvrir le premier tour des élections présidentielles et législatives. Avant d'aller plus loin et d'essayer de comprendre pourquoi a eu lieu ce coup d'État, on entend ici Ahmet İnsel parler de Fethullah Gülen, de la communauté Gülen. C'est qui Fethullah Gülen? C'est quoi cette communauté Gülen?
Alors la communauté Gülen, enfin Fethullah Gülen, c'est d'abord un personnage. C'est un homme qui est un allié qui a un peu fait Erdogan quelque part. Donc, il a permis, en créant une alliance objective, c'est un mouvement religieux. Hein, donc ils sont très en phase idéologiquement Erdogan et Fethullah Gülen. Dès le début de l'accession au pouvoir d'Erdogan au début des années 2000, Fethullah Gülen l'a vraiment aidé à structurer son parti. Il l'a surtout aidé parce que ce mouvement Gülen, qui est un mouvement religieux, qui organise des écoles, qui organise des mouvements de jeunes, a aussi pour vocation de faire de l'entrisme dans l'appareil d'État. Et ce qu'il avait déjà fait depuis les années 80. Il a infiltré l'armée depuis les années 80 en plaçant très discrètement ses pions. Et il a permis à Erdogan, au moment de son accession au pouvoir dans les années 2000, à quelque part purger cette armée, cet appareil d'État qui était jusque-là occupé par des kémalistes, donc par le parti républicain du peuple, qui est l'héritier de Mustafa Kemal, d'Atatürk, des laïcs nationalistes, dont la laïcité et le nationalisme reposent sur la force de l'armée. Bref, Fethullah Gülen a permis un petit peu de ronger cet appareil d'État kémaliste de l'intérieur pour permettre à Erdogan d'y prendre la place. Mais cette alliance a fait long feu, et c'est bien ce qu'on a observé durant cette nuit du 15 juillet, 2016. Voilà pour expliquer un petit peu qui est Gülen et quels sont ses rapports avec Recep Tayyip Erdogan.
Même si donc, 7 ans après, c'est toujours la confusion. Par contre, il y a des goulenistes qui ont été arrêtés, qui ont même d'ailleurs avoué, parfois sous la torture, faut bien le dire, mais pas tous. Il y a aussi quand même des goulenistes qui l'ont fait pour essayer de mettre Erdogan dehors. Ils l'ont avoué, mais il y en a plein d'autres dont on ne sait pas bien les motivations, c'est pas très clair.
Oui, et puis par ailleurs, il y a toutes ces arrestations arbitraires. Je pense que les exemples excessifs, on a arrêté des joueurs de football, on a arrêté des arbitres de football, des arbitres de provincial. Bon, vous voyez un petit peu la possibilité de nuisance d'un arbitre de provincial comparé à un juge ou à un général, c'est assez limité. Il est évident que pour Erdogan, ce coup d'État a permis de faire une purge absolue à tous les étages pour essayer de se séparer de tous les éléments qui pouvaient s'opposer à lui. Mais le rapport entre Gülen et Erdogan est assez ambigu. Parce que on ne sait pas, et Ahmet İnsel l'a bien expliqué dans son interview, on n'est pas sûr non plus qu'il y ait une véritable volonté de la communauté Gülen de s'opposer à Erdogan au point de le virer du pouvoir. Mais ce qui est certain, c'est que cet événement marque, on va dire, toute une partie de la population turque s'est progressivement désolidarisée d'Erdogan quand on s'est rendu compte que son objectif était vraiment un objectif d'instaurer un pouvoir fort, ce qu'il a toujours caché au début pour arriver au pouvoir. Il a plutôt présenté son arrivée au pouvoir comme une volonté de démocratiser un appareil d'État très aux mains des militaires.
Parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question. On entend dans la bouche de la présentatrice de la télévision turque, on l'entend dire que les revendications des putschistes, c'est restaurer l'ordre constitutionnel, la démocratie, les droits humains, les libertés et l'état de droit pour faire régner l'ordre. Effectivement, il n'est pas question de religion dans ce communiqué, donc il n'y a pas de positionnement clair sur la question. Mais c'est quoi la volonté des putschistes? Qu'est-ce qu'ils veulent? Pourquoi est-ce qu'ils mettent en œuvre ce coup d'État à ce moment-là?
C'est toute l'incertitude qui règne. On n'est même pas sûr qu'il y a réellement un mouvement putschiste. Est-ce qu'il était large? Est-ce qu'il était structuré? C'est toute l'incertitude. Tout ce qu'on peut observer, c'est que cet élément, et Erdogan l'a dit lui-même, vous l'avez rappelé Bertrand dans le sujet qu'on vient d'entendre, Erdogan l'a qualifié de don de Dieu ce coup d'État, et c'était un don de Dieu pour justement purger cette armée qui est la véritable opposante structurelle aux velléités de pouvoir d'Erdogan.
Ça veut dire que une des questions, c'est est-ce que quelque part, d'une certaine manière, Erdogan ne peut pas avoir voulu favoriser d'une manière ou d'une autre, ce coup d'État?
Alors, ces pistes sont évoquées quand on... Moi, j'ai pas de preuves, je vais rien affirmer ici, évidemment. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en Turquie, c'est un discours qu'on entend souvent de la part des opposants d'Erdogan. Certains lui prêtent même l'intention d'avoir fomenté un faux coup d'État pour pouvoir justifier une reprise en main du pays encore plus autoritaire. Certains le disent, mais rien ne le prouve.
Après, c'est ce qu'on dit à peu près de chaque coup d'État.
Oui, éventuellement. Alors, on va revenir sur ce point, mais qui est vraiment crucial, avec, si vous le voulez bien, Ahmet İnsel, notamment sur les conséquences, la répression de ce coup d'État, et sur cette vengeance d'Erdogan. Vous allez entendre ce que dit donc le politologue et journaliste turc Ahmet İnsel.
La vengeance d'Erdogan était terrible, mais je crois surtout que Erdogan a utilisé cette tentative de coup d'État où il a eu manifestement un peu peur. N'oublions pas que le Premier ministre était caché dans un tunnel entre Istanbul et Ankara sur la route, etc. Mais Tayyip Erdogan, une fois les choses prises en main, ou peut-être d'ailleurs il a été mis au courant du coup d'État quelques heures à l'avance et il avait pris ses dispositions, une fois que le chef d'État-major, le chef de la première armée de terre d'Istanbul avait assuré de leur fidélité et de leur au gouvernement. Tayyip Erdogan, comme vous savez, est arrivé à Istanbul le matin d'une manière un peu invraisemblable. Donc on se pose toujours la question comment il a pu prendre cet avion. Et à l'aéroport d'Istanbul, le matin, à l'arrivée, il y avait un foule qui l'attendait et il a prononcé un discours un peu ému. Et il a utilisé une phrase qui révèle la totalité de ses actions par la suite. Il a dit « Ce coup d'État est un don de Dieu pour nous ». Alors, il s'agit quoi comme don de Dieu? Ça lui a donné quelques jours après l'occasion, la justification de décréter l'état d'exception, c'est-à-dire la suspension des droits fondamentaux, les droits constitutionnels, etc. Et ça a duré pendant 2 ans. Pendant 2 ans, l'état d'exception est resté en vigueur et Tayyip Erdogan a géré le pays par des décrets présidentiels avec des révocations de la fonction publique sans décision judiciaire, des arrestations très arbitraires et en même temps, du coup, surtout un purge dans la fonction publique, à la fois de l'armée, de la police, mais aussi de l'éducation et d'autres fonctions publiques, des gens qui étaient soupçonnés d'être en lien avec la communauté Gulen, mais pas que. Et aussi des gens qui étaient des syndicalistes, des gens connus pour leur engagement à gauche. Il y a eu une purge énorme de 140 000 fonctionnaires sans décision de justice. Et Tayyip Erdogan a profité de cette occasion pour, un an après, dans la situation d'état d'exception, a proposé un amendement constitutionnel qui a été accepté de justesse avec 51% des voix, qui a ouvert le régime hyper-présidentiel qui sévit actuellement aujourd'hui. Donc, le coup d'État de 2016 a accouché du régime présidentiel.
Alors, il dit à Medin Sel, Benoît Feit, ce coup d'État a fait accoucher le régime hyper-présidentiel. C'est un politologue, Ahmed Insel, fait attention aux mots qu'il utilise. C'est vrai que moi, j'aurais peut-être utilisé le mot autoritaire. Bon, qu'est-ce que vous dites, vous? C'est un moment clé à ce niveau-là d'un basculement d'un régime qui était déjà main de fer, hein, soyons clairs, d'Erdogan, vers un régime autoritaire ou hyper-présidentiel.
Oui, et quand on observe le parcours, donc ça fait 20 ans qu'il est au pouvoir, Erdogan, tout d'abord comme Premier ministre.
Hein, à ce moment-là, ça faisait 13 ans.
Voilà, et on voit une gradation, et il y a une volonté d'avancer. Alors, d'abord, à pas feutrer, et c'est là qu'il était très très fort. Pour bien comprendre l'enjeu turc, en fait, qu'est-ce qu'il représente, Recep Tayyip Erdogan? Recep Tayyip Erdogan, il représente 50% de la population turque, une population rurale, conservatrice, très attachée à son mode de vie plutôt, oui, conservateur, religieux, qui a longtemps été méprisée par l'élite laïque kémaliste, qui a dirigé le pays d'une main de fer, il ne faut pas l'oublier, pendant des décennies. Et ce petit peuple a longtemps été frustré d'être un citoyen de seconde classe dans son propre pays. Vous voyez ces élites occidentalisées vivre des grands trains de vie dans un système purement dictatorial où il était interdit à l'époque de Mustafa Kemal de prier dans sa maison. On a opprimé ce petit peuple religieux. Il n'y a rien de méprisant dans le terme petit peuple. C'est vraiment comme ça que les gens se vivent. Recep Tayyip Erdogan, il arrive au début des années 2000 en disant à ces gens, je vais vous offrir une revanche sur ces gens qui vous méprisent et depuis des années. Ces gens qui vous méprisent, c'est cette élite kémaliste, laïque, et c'est aussi cette armée qui protège ce système. Pour arriver à notre fin, il va falloir qu'on se débarrasse tout d'abord de l'armée. Et il a avancé pour ça à pas feutrer. La première étape, c'était de négocier une possible adhésion à l'Union européenne. En entrant dans un cycle de négociations, évidemment, ce que l'Union européenne a demandé à Erdogan de faire, c'était de renvoyer son armée dans les casernes. Il avait un bon argument donc pour le faire, et en le vendant comme un effort diplomatique. Et plus il a réussi à mettre de côté cette armée kémaliste, il l'a fait, on pourra peut-être revenir dessus, en 2007, il y a un procès retentissant qui s'appelle le procès Ergenekon. Et ça aussi, c'est un peu comme le coup d'État de 2016, c'est peut-être un fantasme. On a inventé un coup d'État fomenté par un groupuscule nébuleux qui s'appelait Ergun Ekon, dans lequel on trouvait des groupements d'extrême droite nationalistes et laïque, des mouvements de l'armée. Et donc, on a déjà en 2007, Erdogan a déjà en 2007 purgé une partie de l'armée sur base de ce procès Ergun Ekon. Et puis, on avance. Il y a de la répression de mouvements sociaux. En 2013, il y a la révolte de Gezi, où c'est des mouvements, en fait, tous les mouvements sociaux d'Istanbul se coordonnent, des mouvements LGBT, des mouvements écolos, des mouvements de gauche, des mouvements syndicalistes, étudiants. Tout, ils se rassemblent autour d'un élément complètement anecdotique, c'est à savoir la préservation d'un tout petit parc à côté de la place Taksim. Il faut voir ce parc Gezi. Enfin, je ne vais pas vous donner une échelle de parc bruxellois ou autre. C'est un square, c'est pas énorme. Mais Istanbul est une ville qui n'est absolument pas verte. Il reste quelques pauvres arbres là derrière. Et toute une partie de la population se mobilise pour maintenir ces arbres à la place de la construction d'un centre commercial. Et ça part en émeute, suite à ces émeutes, renforcement du pouvoir répressif d'Erdogan. Et on enferme un tas de mouvements sociaux. Et donc ce coup d'État arrive en 2016, 3 ans après Gezi. Et on voit donc la gradation de l'exercice du pouvoir d'Erdogan, qui commence à pas feutrer au début des années 2000 en disant « Je suis un démocrate qui va renvoyer les militaires dans leurs casernes pour finir reprendre tout l'appareil d'État en main à des fins islamo-conservatrices, répressives et autoritaires. » Et là, moi, j'assume le mot, je ne suis pas politologue.
Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a effectivement des mouvements successifs qui font qu'on met à l'écart une partie des citoyens, que ce soit des soldats, que ce soit des fonctionnaires, que ce soit des militants. On met une partie des citoyens à l'écart de la société. Ahmed Insel disait 140 000 fonctionnaires qui sont virés. Est-ce que ça... Ça doit avoir, à un moment donné, un impact sociétal sur la Turquie. Ça doit quand même modifier la société turque.
Bien sûr que oui, parce que l'appareil d'État turc a été pensé par Mustafa Kemal, le fondateur de la République, en 1923. L'idée, c'était d'avoir un État extrêmement fort, top-down, comme on dit, où tout se décide d'en haut et s'impose, en ce compris le contrôle de la religion. Quand on dit que Mustafa Kemal était un laïc, c'est une certaine forme de laïcité, mais qui était surtout une laïcité d'opportuniste. L'objectif de Mustafa Kemal, c'était de créer un organisme qui allait contrôler le prêche du vendredi de tous les imams. Les imams devenaient des fonctionnaires de l'État. Ils étaient donc tenus de tenir le prêche décidé par le gouvernement, pour faire simple. Cette structure d'État...
C'est la Dianette.
C'est la Dianette, voilà, exactement. Et ça existe toujours aujourd'hui. Oui. Donc, cette structure d'État, elle permet un contrôle absolu. Et Erdogan n'avait aucune intention de modifier la structure de l'État.
Il est venu se glisser dans une structure.
Il voulait juste remplacer les éléments.
Oui,
et c'est ce qu'il a réussi à faire.
Oui.
Et alors, on parle de fonctionnaires arrêtés, effectivement. Il ne faut pas oublier non plus qu'on a arrêté des journalistes, des artistes, des auteurs. Tout ce qui représentait une pensée critique et indépendante a également subi la répression depuis ce coup d'État de 2016, même auparavant d'ailleurs.
Oui, près de 40 000 arrestations. Quand on utilise le terme « purge », ça correspond ici vraiment à une réalité. Pendant presque 2 ans, donc, la Turquie a vécu les conséquences de ce coup d'État.
La première,
l'histoire continue. Bertrand N. Hélène Maquet.
On continue à essayer de comprendre toute l'importance de cette tentative de coup d'État de 2016. On a déjà expliqué en quoi c'était un véritable séisme pour la société turque, pour la politique turque. On va essayer de comprendre maintenant le rôle que ça a donc sur ces présidentielles qui se déroulent en ce moment. On va d'abord revenir vers Ahmed Insel, notre politologue et journaliste. Et je lui demandais comment il mesurait les effets de ce coup d'État actuellement. Et est-ce que ce coup d'État est toujours présent dans la campagne qui se déroule?
Oui, bien sûr, Tayyip Erdogan use et abuse de cette tentative de coup d'État comme élément d'insécurité fondamentale de plusieurs manières. D'abord, on continue encore aujourd'hui, 7 ans après la tentative de coup d'État, ou 6 ans et demi après la tentative de coup d'État, à arrêter encore des personnes soupçonnées d'être en lien avec la communauté Gulen. Mmh. La communauté Gulen continue ses activités, évidemment, à l'extérieur de la Turquie, et continue donc du coup de jouer pour le gouvernement une sorte d'élément de peur, d'instabilité, et en plus l'utilisation de sigles FETE, F-E-T-E, c'est-à-dire Organisation Terroriste de Fethullah, est devenu un sigle dans la bouche de Tayyip Erdogan pour désigner toute activité de terroriste, d'insécurité, d'instabilité et de manipulation des puissances étrangères. Durant la campagne électorale, Tayyip Erdogan a énormément utilisé le terme FETE, terrorisme, associé aussi à d'autres organisations accusées d'activités terroristes comme l'organisation séparatiste kurde PKK. Mais, et surtout, il a il a accusé son rival Kılıçdaroğlu d'utiliser les moyens de la communauté Gulen pour dénigrer sa candidature.
Vous êtes d'accord avec ça, Benoît Feit, le coup d'État, 7 ans plus tard, est utilisé comme une sorte d'épouvantail, comme un élément de langage qu'on peut comme ça appliquer à n'importe quel opposant, comme par exemple ici Kılıçdaroğlu, qui est le concurrent, qui ira au second tour de l'élection présidentielle face à Erdogan.
Oui, je pense que l'épouvantail est une très très belle métaphore. Et par ailleurs, je ne m'autoriserai pas à contredire ce que vient de dire Ahmet İnsel. J'ai beaucoup trop de respect pour la personne. Mais effectivement, je suis évidemment en phase avec ça. Et je peux même en témoigner. Quand j'étais sur place récemment, on discute dans la rue régulièrement avec des gens qui se présentaient comme des opposants à Erdogan, qui disaient « Mais moi, je n'avais pas envie de voter pour Erdogan. Mais je l'ai quand même fait au premier tour. » Alors, très surpris, je dis « Mais enfin, mais pourquoi ? Alors, si vous ne vouliez pas lui, avez-vous voté pour lui ?» Parce que son opposant, Kılıçdaroğlu, justement, a signé un pacte avec les terroristes. Et donc cet argument répété, ressassé par Erdogan en disant « je vous protège de deux formes de terrorisme ». Il y a d'une part le terrorisme ciblé, on va dire historique, le PKK, le Kurde. Mais alors maintenant, on ajoute ce deuxième volet, Fethullah Gulen et tout son réseau. Et je discutais, certaines personnes dans la rue me disaient je voulais le changement, je voulais la démocratie, mais voter pour ce Kılıçdaroğlu, pour l'opposant Erdogan, c'était accepter qu'il prenne avec lui des terroristes, sous-entendu ceux du PKK et peut-être même ceux de Fethullah Gulen.
Et c'est vrai, il y a des liens entre Kılıçdaroğlu et Fethullah Gulen, ou c'est tout à fait un autre spectre dans la vie politique turque. Ça n'a rien à voir et c'est un peu de la pure fake news.
C'est un argument tarte à la crème dans une campagne électorale qui était d'assez bas niveau, et intellectuellement parlant, mais assez rude sur le plan des mots employés, de l'agressivité du ton en général. Mais... Par contre, le sous-entendu Kılıçdaroğlu soutient les terroristes kurdes, c'est une vue de l'esprit qui... Bon, en termes de stratégie politique, c'est très malin de la part d'Erdogan, mais c'est faux. Ce qui se passe simplement, c'est que l'opposant Erdogan, Kılıçdaroğlu, a réussi à créer une grande alliance autour de lui qui rassemble plusieurs partis, mais pas le parti kurde. Le parti kurde a simplement décidé de ne pas présenter de candidat au présidentiel pour soutenir indirectement Kılıçdaroğlu. Mais il n'y a pas d'alliance entre ce parti et Kılıçdaroğlu et son entourage.
Alors un autre élément qui est frappant et qui nous ramène entre ce coup d'État et ces élections, c'est quand même là, d'abord que peut-être Recep Tayyip Erdogan a été sous-estimé en 2016. Les mutins ont cru pouvoir l'avoir, ils ne l'ont pas eu. Et qu'il en est sorti renforcé par la rue, avec des partisans qui étaient prêts à se mettre, on n'a pas vu les images, on a entendu, mais sous les chenilles des chars pour qu'ils ne passent pas à Istanbul. Ce qui montre quand même une vraie communauté, une force d'Erdogan politique, un lien très puissant avec ses sympathisants, ses militants, quand on dit militants d'Erdogan, c'est des vrais militants, c'est des gens qui sont prêts à mourir pour lui. Ça, c'est quand même quelque chose qui, encore ici, a même surpris les Occidentaux qui ont vu cette élection. Le sondage n'était pas très bon. Et finalement, il est là, il est puissant et il a des sympathisants qui tiennent vraiment à ce qu'il soit là.
Et c'est ce qu'on mesure assez peu ici, c'est à quel point Erdogan est un personnage soutenu et populaire en Turquie par toute une partie de la population, celle que je vous décrivais tout à l'heure, ouais. Une population plutôt rurale qui vit dans les campagnes, les petites villes d'Anatolie ou dans les quartiers ouvriers des grandes métropoles, des gens qui ne se sentent pas représentés par ce monde, cette Turquie ouverte sur le monde, occidentalisée, laïque. C'est plutôt la revanche de ce petit peuple. Et Erdogan a par ailleurs un profil très charismatique, c'est quelqu'un qui s'exprime très bien, c'est un leader, il joue beaucoup sur son image et tous les codes du leader charismatique, ça marche plutôt bien. Mais le soutien populaire qu'il a est un soutien, à certains endroits, même aveugle. Les gens le croient sur parole. Et s'il vous dit dans le blanc des yeux qu'il n'est pas responsable de faits de corruption, qu'il n'a pas magouillé avec ses copains entrepreneurs pour construire dans les zones sismiques des bâtiments qui allaient s'écrouler à la première secousse, les gens vont le croire. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'alternative pour eux. C'est Erdogan ou revenir au mépris de cette classe qu'il déteste.
Alors il y a un dernier acteur dont on n'a pas parlé, on va terminer avec ça, c'est l'armée. Aujourd'hui, est-ce que l'armée est toujours un acteur politique incontournable en Turquie ?
Bon, elle l'est parce que c'est d'abord la Turquie est une armée ultra puissante, très très nombreuse, qui sur le plan géostratégique, ça serait l'objet peut-être d'une autre émission, mais aussi un vrai rôle à jouer.
Il faut pas oublier de le dire.
Voilà. Et ce qui rend les choses très très compliquées. Ouais. C'est un numéro d'équilibriste, faire de la politique étrangère dans le chef d'Erdogan. Il s'en sort pas trop mal pour l'instant. Il arrive à ménager la chèvre et le chou, à garder un pouvoir d'influence dans cette sous-région.
Parce qu'il a un discours très anti-occidental. en faisant partie de l'OTAN, ce qui est quand même incroyable.
Hein. C'est parce qu'il a, il est conscient de sa, de son pouvoir et de son rapport de force. Il sait que l'OTAN a besoin de lui. Oui. Et donc il joue là-dessus. Et c'est, il a joué là-dessus lorsqu'il fallait négocier avec l'Union européenne. Mais peut-être pour en revenir à un élément qui, à mon avis, est important à bien comprendre ici en Europe. D'une part, on ne mesure pas à quel point Erdogan est populaire auprès d'une grande partie de la population turque. D'autre part, on ne mesure pas non plus la vexation de la population turque à l'égard du traitement qui lui a été donné par l'Union européenne lors de ces fameux rounds de négociations au début des années 2000.
L'humiliation, quoi, encore.
L'humiliation.
C'est ce ressort-là, cette population humiliée par le kémalisme. Et puis maintenant par les Européens.
Ceux qui étaient plutôt kémalistes occidentaux ont eu l'impression qu'on leur a joué un tour de cochon ou un tour d'hypocrite et qu'il a jamais été dans le chef des Européens. Il n'y a jamais eu d'intention européenne de les intégrer dans l'Union Européenne. On leur a fait miroiter une possible intégration et ils ont bien compris que c'était de l'hypocrisie pure et ils se sont sentis abandonnés. Donc le regard turc, qu'on soit kémaliste ou islamo-conservateur à l'égard de l'Occident, est un regard extrêmement critique.
Ouais, mais promis, on fera une fois une émission sur la non-entrée de la Turquie dans l'Union, parce que c'est vrai que c'est passionnant, ça s'est joué à la fin des années 90, début des années 2000, où Erdogan arrive. On vous réinvitera, en fait, pour parler de ça, puisque vous connaissez bien le sujet.
Et en attendant, on comprend un peu mieux aujourd'hui comment résonnent ces années-là. Et puis les années 2000, 2015, 2016, sur ces élections qui ont lieu en ce moment en Turquie.
Merci Benoît Faïd, je rappelle que vous êtes journaliste ici à la rédaction internationale de la RTBF.
Merci Bertrand, merci Hélène, c'est toujours un plaisir d'être avec vous.
Raconter le passé pour éclairer le présent, c'est ce que nous faisons chaque semaine dans l'Histoire continue.
Avec l'aide des archives de la Sonuma et à la réalisation Jonathan Remy.